Bonsoir, comment allez-vous ? La profusion de séries de télévision et de publicités de Noël nous font croire que l'humanité entière fête Noël en famille, avec des enfants détendus, des grands-parents équilibrés, des frères et sœurs bienveillants, dans des salons aux cheminées garnies de cadeaux merveilleux, nous font croire qu'un sapin de 3 mètres de haut a facilement trouvé sa place aussi dans le salon où la table scintille, les coupes pétillent, tout le monde s'amuse, personne n'arrive en retard, personne n'est fatigué. Ça fait envie, c'est étudié pour. Si chez vous, ce n'est pas aussi réussi, si vous vous sentez isolé, différent, voire un peu coupable d'avoir raté un truc, dites-vous bien que ces familles qui fêtent Noël n'existent pas. Ce sont des comédiens. Leurs paroles ont été écrites par un directeur marketing d'une entreprise de téléphone. Si au lieu de vouloir vivre des Noëls le plus conformes possible à ce qu'on voit à la télévision, nous vivions des Noëls le plus conformes possible à ce que nous sommes, à ce que nous avons ou n'avons pas. Essayons d'accepter nos vies différentes, peut-être un peu cabossées. Et si ça se trouve, ce sera un super Noël plus beau qu'à la télé. Le fait d'arriver à faire voler des rênes, un traîneau, un gros bonhomme dessus, prouve que tout est possible dans la vie, non, surtout ce jour-là.
Bonjour, je m'appelle Elisa et j'aimerais savoir comment faire pour profiter du moment présent. Merci.
Bonsoir Elisa, profitez du moment présent, nous avons proposé, Elisa, ta question à Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste et vous êtes entre autres professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers. Ce fameux moment présent.
Profiter du moment présent. Il faut déjà en avoir conscience, mais on va répondre à la question d'Elisa. On profite du moment présent quand on a en fait très souvent le sentiment d'avoir fait ce qu'on devait faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne ressent pas de culpabilité. La culpabilité, c'est je me sens coupable de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Résultat, quand il y a le moment présent qui arrive, je pense au moment présent, mais je pense à ce que je n'ai pas fait.
Je n'ai pas fait mes devoirs pour lundi.
Exactement.
Donc, je ne profite pas du
moment. Et donc, résultat, je ne peux pas profiter du temps présent puisque je sais très bien que je n'ai pas fait à un autre temps ce que le présent de ce temps-là, à ce moment-là, me demandait de faire. Donc ça, c'est un point essentiel. On n'arrive pas à non plus profiter du moment présent quand on a des émotions négatives. Les émotions négatives ou tristes, c'est par exemple « j'ai peur ». Si j'ai peur, je ne peux pas profiter du moment présent. Pourquoi ? Parce que si j'ai peur, je suis dans une situation où je me sens menacée, en danger, en survie, en vigie. Et donc, on voit très bien qu'on profite du moment présent quand on est apaisé. Apaisé, donc ça veut dire que rien autour de soi ne nous met en danger. Donc ça aussi, c'est très important de poser ça. Dernier point, il y en a plein d'autres, mais notamment un point important qu'on oublie parfois. On profite souvent du moment présent parce qu'on va le partager. Et donc la question du partage du moment présent, elle est aussi importante. Par exemple, quand je suis en train de regarder quelque chose, c'est vraiment génial. Mais ça serait encore mieux si il y avait mon ami ou s'il y avait mes parents, ma famille, et si tous ensemble, on pouvait partager ce moment présent. Et c'est vrai que la présence des êtres aimés, elle est très très importante aussi pour donner au moment présent toute sa résonance.
On peut pas le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire se forcer un petit peu à profiter du moment présent pour éloigner la peur et la culpabilité.
Sincèrement, ça fait partie de ce qu'on appelle des injonctions au bonheur. Les injonctions, c'est-à-dire « je te dis ce que tu dois faire ». Et en philosophie ou en psychanalyse, on appelle ça un « double bind », une double contrainte. Et une double contrainte, ça veut dire que, en gros, c'est comme quand on dit à quelqu'un « sois naturel ». Alors, non, « je t'ordonne de me désobéir ». Ah ben non, parce que si je te désobéis, je ne peux pas suivre ton ordre. Donc, c'est ce qui s'appelle une injonction contradictoire. Et de fait, « sois heureux, profite du moment présent ». Ah ben non, puisque précisément pour profiter du moment présent, faut pas que je m'oblige à profiter du moment présent. Et donc, non, ça ne marche pas comme ça, hélas.
Nous le savons tous, pourtant nous avons peut-être tous dit à nos enfants « dors !» Oui, ça marche pas non plus. Cynthia Fleury, donc philosophe, a aussi écrit « Le soin est un humanisme » chez Gallimard, un petit livre intéressant et pas cher. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. André Braïc n'est plus de ce monde, ça a été un des premiers savants à venir au petit bateau et nous l'aimons beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les étoiles clignotent.
C'est un effet qui est dû au fait que nous sommes sur la Terre. Et sur la Terre, il y a une atmosphère autour de la Terre.
Oui.
C'est même grâce à l'atmosphère que nous vivons, que nous respirons, sommes en vie. Eh bien, la lumière des étoiles passe à travers l'atmosphère. Et en passant à travers l'atmosphère, qui est une espèce de rideau en quelque sorte, eh bien la lumière est un petit peu chahutée en quelque sorte, elle bouge un petit peu. Donc cet effet de clignotement n'est qu'une apparence. Si on s'élève dans l'espace, si on va sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, si on va sur la navette spatiale, on verra une étoile comme un point de lumière qui sera parfaitement fixe. Donc ces petits points que sont les étoiles dans le ciel, parce que c'est des points parce qu'elles sont très loin, c'est en fait des objets qui sont énormes, qui sont très gros, eh bien la lumière de l'étoile venant d'un point traverse l'atmosphère et est déviée par les turbulences, par les vents, par les nuages, par tout ce qu'on peut rencontrer. Et donc ce clignotement est apparent. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde une planète, je pense à Vénus, je pense à Jupiter, je pense à Mars, je pense à Saturne, eh bien là ça ne clignote pas. Pourquoi ? Parce que la planète est proche de nous. Son diamètre apparent est beaucoup plus grand que l'étoile qui est très loin de nous. Et donc, cette planète est un petit disque. Alors qu'une étoile est un point. Donc, le point, il va un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Alors, dans un disque, s'il y a un point qui va en haut, en bas, à gauche, à droite, tous les points du disque se mélangent. Donc, la manière de reconnaître à l'œil une étoile et une planète, c'est qu'une planète ne clignote pas et une étoile clignote.
Charlotte dit clignote, c'est peut-être pour ça qu'on parle de scintillement.
Oui, en fait, le mot correct, c'est scintiller. Clignoter, c'est pas comme un feu orange qui clignote, évidemment. C'est vraiment un petit scintillement, c'est-à-dire, on voit une petite variation. Le mot correct, c'est scintillement, bien
donc,
entendu.
Donc, scintillement étoile et une lumière complètement uniforme, planète.
Voilà, une étoile scintille, une planète ne scintille pas.
Si par hasard vous oubliez qu'une étoile scintille et qu'une planète ne scintille pas, eh bien vous pouvez réécouter cette réponse de l'astrophysicien André Braic sur franceinter.fr à la page des petits bateaux.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. See, I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you.
Ça, les enfants, sachez que vos grands-parents ont dansé là-dessus. C'est peut-être grâce au Maudit Blues que vous êtes là.
Les petits bateaux sur France Inter.
Dans les familles, il y a toujours une grande discussion sur le premier mot qu'a prononcé bébé. C'est papa, disent les pères, c'est maman, disent les mères, c'est moi, disent les autres.
Bonsoir, je suis une jeune maman de 3 fois 11 ans et je voudrais savoir si tous les bébés de la Terre font areux. Ou bien seulement les bébés francophones, enfin, futurs francophones. Merci.
Alors, 33 ans, cette jeune maman, Dr Ghislaine Dehaene, vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice de l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospire, et vous observez des bébés toute la journée. Areux en français ou...
Areux qu'en français. Nous, on a cru très longtemps que le babillage, donc ces premiers sons que font les enfants vers la fin de la première année de vie, oui, étaient universels. En fait, ils sont déjà très affectés par la langue maternelle. Et donc, les petits Français font effectivement beaucoup de « re », puisqu'il y a le « r » est très prononcé et très audible en français, alors que les petits Chinois vont avoir déjà des tons dans leur babillage, donc vont plus moduler ce qu'ils sont en train de dire. Les petits enfants arabes vont faire plutôt des le, donc cette espèce de prononciation à l'arrière de la gorge qu'on n'a pas en français, qui existe en arabe. Et donc, chacun des enfants d'une langue donnée va plutôt produire du babillage en fonction de sa langue maternelle.
Ce qui voudrait dire quoi, Ghislaine Dehaene, qu'il a déjà entendu quand il était dans le ventre de sa mère?
Là, on est plutôt à la fin de la première année de vie. Donc, il a déjà beaucoup d'expérience avec les sons de sa langue. Et ce qu'on voit très bien maintenant, qu'on a observé et écouté et regardé les bébés, c'est qu'en fait, la première année de vie est très importante pour fixer les paramètres de la langue maternelle. Toute la partie perceptive de l'acquisition du langage est très importante pour repérer d'abord quels sont les sons de la langue, comment ils se combinent entre eux, quelle est la mélodie de la langue, parce que chacune des langues humaines a fait un choix particulier d'un ensemble de paramètres linguistiques. On n'utilise pas tous les sons possibles. Par exemple, en français, on n'utilise pas le arabe. On a du mal à le prononcer.
Idem pour l'anglais, cela dit.
Idem pour l'anglais. Idem pour l'anglais. Les anglais ont beaucoup de mal à faire le U.
Non, puis moi, il y a des sons anglais que je ne sais pas faire.
Hein. Oui, on est très mauvais. Les Français sont très mauvais pour le stress. Vous savez, le fait qu'une syllabe est accentuée ou pas en anglais. En français, le stress tombe toujours sur la dernière syllabe du mot. Donc, pour nous, c'est un paramètre fixe. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper. Par contre, dans beaucoup d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le stress et sur une ou l'autre des syllabes, et varie entre les mots.
Ce que vous appelez le stress, c'est l'accent tonique.
Voilà, exactement. D'accord. Et donc, nous, on est devenus totalement sourds. C'est-à-dire, on n'entend pas une différence entre B et B, où on met l'accent sur le stress tonique sur la deuxième syllabe, ou B et B, j'essaye de le faire, sur la première syllabe. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à apprendre certaines langues, et en particulier l'anglais. Mais les bébés vont repérer ça très très tôt et spécifier ces paramètres dans leur langue extrêmement tôt.
Finalement, Ghislaine Dehaene, parler c'est imiter. Pour imiter, il faut écouter, entendre, enregistrer.
Exactement, et analyser, parce que ce n'est pas juste un magnétophone. Et ça, ce sont des phénomènes qui existent dans le cerveau humain et on ne comprend pas très bien pourquoi les humains sont capables de faire ce genre de choses. Et les bébés, dès le départ.
Ils sont forts. Hein,
ils sont très forts.
Je ne sais plus si je vous ai dit que le docteur Ghislaine Dehaene était directrice de recherche au CNRS. Pendant ces vacances de Noël, je vais vous donner un conseil que vous ne me demandez pas, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Lisez, lisez, relisez, mes enfants. Et il y a un livre qui va bien, je trouve, à Noël. Ce n'est pas un livre, c'est une saga, les Harry Potter. Avec tous les banquets, les friandises, les grands feux, le froid dehors, la neige à Poudlard. Vous allez voir comme vous allez vous sentir bien chez vous pendant les vacances de Noël avec un bon livre.
Bonjour, je m'appelle Augustin, j'ai 14 ans, et je voudrais savoir, est-ce que la cape d'invisibilité de Harry Potter sera possible un jour? Merci.
Ça alors, quelle question! Est-ce que la cape d'invisibilité d'Harry Potter sera possible un jour? Julien Bobrov, vous qui êtes physicien, vous enseignez à Orsay, c'est-à-dire à l'Université de Paris-Sud, et vous avez écrit « Mon grand mécano quantique » édité chez Flammarion. Que pensez-vous de cette question?
En fait, Augustin, la cape d'Harry Potter existe déjà. On l'a déjà fabriquée en laboratoire, mais alors tu vas voir, elle est un peu minable. Donc il faut que j'explique ce que c'est que cette cape d'invisibilité. Ça veut dire quoi être invisible déjà? Ça veut juste dire que quelqu'un d'autre ne nous voit pas. Ça veut dire que la lumière, qui normalement devrait taper sur nous et aller ensuite dans l'œil de l'autre personne, a choisi un trajet pour nous éviter. Donc si j'arrive à faire que la lumière m'évite, je suis invisible. C'est la définition de l'invisibilité, finalement. Alors, il y a plein d'autres façons d'être invisible, des petites astuces de magicien, par exemple. Mais pour le physicien, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à dévier la lumière. Alors, ce que les physiciens ont fait, c'est qu'ils ont pris d'abord un petit matériau, c'est une petite montagne. Voilà, ils se sont dit, on va essayer de rendre invisible une petite montagne. D'accord ? Alors, la montagne, elle est vraiment ridiculement petite. Hein, elle fait l'épaisseur d'un cheveu, mais acceptez une seconde que ça soit une petite montagne. Et dessus, ils ont posé leur cape. Alors, comment ils ont fabriqué leur cape? Ils ont utilisé ce qu'on appelle des métamatériaux. L'astuce, c'est de mettre plein de tout petits composants électriques en or sur la cape. Donc, la cape, elle est recouverte d'une espèce de brodure électrique. Alors, pourquoi électrique? C'est parce qu'en fait, la lumière, c'est de l'électricité. La lumière, c'est une onde électrique. Et donc, ce que se sont dit les physiciens, c'est, si c'est une onde électrique, il suffit que j'utilise des circuits électriques pour la dévier. Et l'astuce, c'est que chaque circuit électrique, je peux lui dire de plus ou moins dévier la lumière. Donc, ils ont mis plein de petits circuits électriques. Et ils ont dit, en gros, juste en choisissant la taille des circuits, qu'en haut de la montagne, on la dévie beaucoup. puis en bas de la montagne, on la dévie un peu moins, et puis au niveau plat, on la dévie plus du tout. Donc la lumière, elle arrive, elle voit ces petits circuits électriques, elle est affectée par les circuits électriques, ils ont juste réglé les circuits électriques pour que le haut de la montagne, on ait l'impression qu'il soit au même niveau que le bas de la montagne, donc qu'il n'y ait plus de montagne. Alors ils ont fait leur dispositif, puis après ils ont fait une image avec un microscope, et soudain, leur montagne avait disparu. Donc ils avaient fabriqué une cape d'Harry Potter. Alors là, il faut tout de suite que je t'arrête parce qu'on se dit « Waouh, je la veux, où est-ce que je peux l'acheter ? C'est fabuleux, même si c'est petit. » En fait, elle a des défauts, cette cape. Elle en a d'abord, c'est qu'on ne sait la faire pour l'instant que sur des petites échelles. Donc c'est une toute petite cape d'Harry Potter pour fourmis, on va dire. C'est vraiment fourmis plutôt qu'Harry Potter. Et puis, il ne faut pas bouger. Parce que si on bouge, ça ne marche plus, vu qu'ils ont conçu la cape exprès pour la montagne. Donc déjà, il faut qu'Harry Potter ne bouge plus du tout. On peut se dire « Bon, c'est pas grave, hein, il ne bouge pas et ça va déjà être pas mal. » Et puis, il y a un autre problème qu'on oublie souvent, c'est l'ombre. C'est que quand on éclaire un objet, bah, y a une ombre derrière. Et elle, on a du mal à la cacher. Donc à mon avis, un des problèmes qu'on aurait avec cette cape d'Harry Potter, c'est qu'on serait invisible, mais qu'on verrait notre ombre. C'est et donc, il faudrait trouver des façons un peu particulières de nous éclairer. Mais les chercheurs travaillent beaucoup actuellement sur ces métamatériaux pour gouverner et faire ce qu'ils veulent avec la lumière.
Ah, il a peur de son ombre. Bah oui. Julien Bobroff est physicien. Il a écrit « Mon grand mécano quantique » édité chez Flammarion.
Minouche, ma minouche, pourquoi tu te fâches? Ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, un petit rien t'échauffe. La colère te fauche. Minouche, donne-moi ta bouche, la plus belle de toutes les bouches. Minouche, sois pas farouche, t'es ma carouche, française de souche. Je suis ton apache, cobrons le clash. Si personne ne triche, j'aime les rouges qui tâchent. Quand ils sortent de ta bouche, la jolie ganache, des airs de manouche.
Rachita, ça donne envie de prendre des cours de danse orientale. C'est pas mal, ça, comme cadeau, je trouve, d'offrir des cours, des cadeaux un peu, comme on dit, dématérialisés, c'est ça? C'est-à-dire, c'est un cadeau, mais il n'y a pas d'objet d'offrir un spectacle ou des cours de quelque chose. C'est une bonne idée. À propos de dématérialiser, oui, je l'ai bien descendu, notre répondeur n'est pas vraiment là. C'est pas la peine d'appeler, il ne reviendra que l'année prochaine. Il est parti prendre des cours de danse orientale.
Bonjour! Je suis Clément, j'ai 6 ans et demi, et j'aimerais savoir pourquoi les barbares ont gagné contre les Romains. Au revoir, merci.
Bonjour Clément, 6 ans et demi, tu es précis. Alors nous avons proposé ta question à un spécialiste de la guerre et aussi à un spécialiste de l'Antiquité romaine, professeur émérite à la Sorbonne où je te souhaite d'aller un jour. Vous avez écrit Yann Le Boeck, Alésia, 52 avant Jésus-Christ et chez Talandier. Là, la question de Clément parle des Romains qui se sont fait battre. J'ai l'impression que c'est pas si souvent.
Eh bien, je pense que Clément pose une question qui est délicate pour moi, parce que je me suis personnellement engagé sur ce sujet. Les Romains ont été vaincus par les barbares, d'abord dans des batailles au milieu du 3e siècle de notre ère. Un empereur romain qui s'appelait Dèce a été battu à Abritus en 251 et tué.
Après Jésus-Christ.
Après Jésus-Christ, bien entendu. Ensuite, à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle, il y a eu de nouveau toute une série de défaites des Romains. 378 Andrinople, 406 le Rhin est traversé par les Vandales, les Alains, les Suèves. 410 les Visigoths s'emparent de Rome et puis la ville. Et puis les barbares s'installent dans l'Occident. L'Occident romain devient l'Occident barbare. Alors pourquoi ? La réponse est à la fois simple et complexe et délicate, disais-je tout à l'heure. D'abord parce que ce qui est simple, c'est qu'on devine que les barbares sont plus forts et les Romains sont moins forts. Ces barbares, ce sont des Germains, les Goths, les Alamans, les Francs, l'Iran également.
Ah, c'est loin que ça ?
Eh oui. D'abord, ces gens, ces barbares, ces ennemis, sont devenus plus forts. Ils se sont organisés en ligue. Et puis finalement, ils ont compris que s'ils veulent vaincre les Romains, il faut se battre comme eux. C'est-à-dire avec des soldats qui deviennent des professionnels, qui aussi ont un meilleur armement. Et puis les Romains deviennent plus faibles, pour deux raisons. La première, c'est que à partir du moment où il y a des défaites, les jeunes gens n'ont plus trop envie d'entrer dans l'armée. Et d'autre part, il y a un abaissement du recrutement, parce que les soldats sont mal payés. L'État romain s'est ruiné au cours du 3e siècle. Les défaites ont entraîné le paiement de tributs très élevés aux barbares. On ne peut pas payer les barbares en leur versant des tributs et payer les soldats en leur versant des salaires. Donc, se battre gratuitement, c'est quand même quelque chose que les Romains n'aimaient pas trop.
Donc, en fait, c'est un peu une défaite en boule de neige, quoi.
Quand ça commence à se désorganiser, on ne peut plus arrêter la défaite.
C'est la dégringolade.
Je pense que l'armée romaine est devenue très médiocre à la fin du 4e et du 5e siècle. Et je dois dire quand même à Clément que tous mes collègues ne sont pas d'accord avec moi là-dessus.
C'est bien honnête. Une petite question. Quand les barbares ont appris à se battre avec méthode et avec un bon matériel, comme vous l'avez dit, ils ont appris ça des Romains ou ils l'ont appris d'ailleurs ?
Ils l'ont appris des Romains de deux manières. D'abord sur le terrain, quand ils se battaient contre les Romains, ils voyaient bien comment les Romains s'organisaient. Et puis, il y a eu des déserteurs des armées romaines. Notamment, je pense qu'au moment d'une guerre civile, à la fin du 2e siècle de notre ère, des Romains vaincus, qui étaient du camp des vaincus, du camp d'un général qui s'appelait Niger, se sont réfugiés en Iran et qu'ils ont appris aux Iraniens à fabriquer des armes et à se battre comme les Romains, avec une infanterie lourde, ce que les Iraniens n'avaient jamais eu jusque-là.
Yann Le Boeck a écrit et édité chez Talandier « Alésia ». Et c'est très amusant à lire, ce n'est pas du tout fastidieux. En plus, c'est une histoire que personnellement, j'avais un peu oubliée. Et puis, si vous aimez cette période, il n'est pas impossible que le Père Noël dépose le dernier Astérix dans votre soulier. Pas complètement, vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr ou bien sur notre site. Merci aux garçons Jean-Baptiste Audibert et Pierre-Yves de Rolin, Marjorie de Voucou, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 et nous vous souhaitons un joyeux Noël. Et nous vous laissons avec le Père Denis.